Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio Audible. Polar, roman ou science-fiction, téléchargez et écoutez vos livres audio sur l'appareil de votre choix. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est en Russie que nous emmène Franck Ferrand aujourd'hui aux côtés d'un guide inspiré. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Autant dire le seul guide possible. Il est notre Russe à nous au cœur de l'histoire. C'est toujours une joie de recevoir Vladimir Fedorovski. Or,
j'ai pas perdu mon accent.
Non, mais j'espère bien, ce serait terrible ça. Le personnage dont nous allons aujourd'hui partager le destin est au cœur du dernier ouvrage de Vladimir, La Volupté des Neiges. Il sera d'ailleurs l'une des belles entrées de son prochain dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. Il s'agit de Dostoïevski.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Karl sur l'origine du titre « Tsar de toutes les Russies ».
J'ai bien envie de laisser Vladimir répondre. Pour le moment, je vous propose de nous retrouver au cœur du règne de Nicolas Ier, comme dirait Vladimir, « Davai ».
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La vie de Fédor Dostoïevski n'a rien à envier à ses grands romans, Crime et châtiment, L'idiot, Les démons ou bien sûr les frères Karamazov, entre autres. Tout y est dans cette vie. Les passions dévorantes, les aventures presque irréelles, les malheurs effroyables et au détour d'un dur chemin, la grâce pure et intacte. Le chapitre que j'aimerais vous raconter se situe dans la jeunesse de l'écrivain et nous transporte dans la Saint-Pétersbourg des années 1840, sous le règne du tsar Nicolas Ier, un règne de fer, pour ne pas dire même un règne d'airain. Nous partons à la rencontre de ce jeune homme ambitieux, mais aussi taciturne, sensible à l'extrême, Fédor Dostoïevski. Il est noble et cultivé, cet officier. Il n'a pas été épargné par le malheur. Il a été confronté déjà à toutes sortes de tragédies. Enfant, il a assisté à des scènes d'une violence incroyable. Adolescent, il a perdu sa mère, malade, épuisée. Quant à son père, qui était médecin, c'était un homme brutal, alcoolique et qui a fini, semble-t-il, par se faire assassiner par ses propres serviteurs, par ses propres serfs. Vous voyez un peu l'ambiance générale. Malgré toutes ces épreuves et malgré un manque permanent d'argent, le jeune Fédor a pu finir ses études. Il a trouvé une petite place au département des plans de la direction du génie de Saint-Pétersbourg. Ah, l'administration du tsar, l'administration russe. C'est quelque chose, disons-le, cet emploi l'ennuie et l'ennuie à mourir. Depuis longtemps, il a en lui quelque chose, ce jeune Fédor. Il pense de plus en plus à la littérature. Il s'est bien un peu essayé déjà, mais il n'est pas allé au bout. Il doute, vous savez, je vous ai dit, c'est un tempérament nerveux, tourmenté, il hésite. Il passe à autre chose et pendant ce temps, le temps passe. Nous sommes en 1844, lorsque vraiment ses velléités se concrétisent. Il faut vous dire qu'en juin de cette année 44, Fédor a traduit Eugénie Grandet de Balzac. Il a une vraie passion, enfin en tout cas une grande admiration pour Balzac. Il a 22 ans à ce moment-là, il se dit qu'il est temps que lui-même passe au roman. Il demande sa mise en disponibilité, c'est le grand saut. Il va demander quand même un peu de soutien financier à son oncle, qu'il considère son neveu comme un inconséquent. Mais Fédor y croit, il le sent, il a en lui un grand livre, il est porteur de quelque chose. Et ce roman, qui doit être un roman épistolaire, s'appellera « Les pauvres gens ». C'est très fort quand un artiste, et tout particulièrement lorsqu'un romancier, se lance dans l'aventure de la création, lorsqu'il sent qu'il est prêt à donner quelque chose au monde. C'est ça que vit en ce moment Fédor. Il commence à écrire, bien entendu, d'abord en secret, mais très vite il est obligé d'en parler. Vous savez comment ça se passe, il en parle à ses amis, il lit des bribes de ce texte, et la réaction est enthousiaste. Il montrera bientôt le manuscrit quasiment achevé à un critique influent qui est conquis et qui dit à Fédor, pour vous, parce que vous êtes artiste, la vérité s'est révélée entière. Elle est un don que vous avez en vous, restez lui fidèle et vous serez un grand écrivain. Mais vous imaginez quand on dit ça à quelqu'un qui n'aspire qu'à cela, Fédor est fou de bonheur. Son avenir d'un seul coup s'est éclairci. Son nom commence à faire le tour de la bonne société de cette capitale Saint-Pétersbourg où les salons font les réputations en quelques jours. Il est porté au nu. On l'invite dans les maisons les plus courues. Et tout ça, disons-le, lui monte un petit peu à la tête. Le vertige le prend. Il joue les Rastignac. Georges Rayer nous dit qu'il s'habille chez un grand faiseur, ruine en fleurs, sans dette, joue les dandys. Ben oui, ça a l'air tellement facile du jour au lendemain. Le peu d'argent que lui avait donné son oncle, il sait l'employer, croyez-moi. Il force sa timidité, Fédor. Il ne manque pas un raout, un thé, un dîner. Il pose, se pavane, snob les uns, flagorne les autres. Bref, il est en train de devenir un jeune mondain odieux. On en a vu d'autres comme ça. Mais dans cette vie d'artiste en herbe, la roue tourne vite, vous savez, et celui qui, la veille encore, avait été encensé, est en train, très vite, de passer de mode. Il entend bien les rires lorsqu'il passe maintenant, il voit bien les gens se moquer de lui, il a un caractère quand même très sombre, il a des emportements, une vanité, beaucoup de défauts qui ne sont pas du commun, beaucoup de défauts qui appartiennent à une grande nature, mais qui évidemment le font devenir odieux à beaucoup. C'est à peu près à cette époque qu'il va faire une rencontre déterminante. Il est vulnérable, vous l'aurez compris. Il est en train de sortir d'une boutique quand un jeune homme qui s'appelle Petrachevski lui saute littéralement dessus et l'interroge sur ses projets d'écriture. « Alors où en êtes-vous, maître ?» lui dit-il, etc. Et Fédor apprend que Petrachevski, chaque semaine, réunit un cercle de discussion. Ben, il s'y rend, c'est Virgile Thanase qui nous raconte ça. Il y trouve, dit-il, un groupe de gens intelligents et instruits qui débattent de sujets qu'ils concernent aussi, sur lesquels il peut donner son avis, ce qui lui permet de briller, d'obtenir facilement l'admiration dont il semble avoir tellement besoin. Autant vous dire qu'il ne partage pas vraiment les idées souvent révolutionnaires du petit groupe qui est là, mais il se sent porté, il se sent important d'une certaine manière. Alors il se prend au jeu, bien entendu. Il commence à devenir lui-même un esprit fort. Il s'intéresse à Proudhon, à Fourier, à toute cette littérature venue de France qui inquiète beaucoup le pouvoir du tsar à l'époque. Du reste, le pouvoir sait très bien que cette jeunesse pétersbourgeoise est dangereuse. On infiltre très vite un espion dans le petit cercle et le 23 avril 1849 à 5h du matin, on arrête 33 membres du fameux cercle d'idées et parmi les 33 membres, il y a un certain Fédor, 27 ans, écrivain en devenir.
Concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous pour en savoir plus sur la vie romanesque de Dostoïevski. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il est considéré comme l'un des plus grands romanciers russes. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de la vie romanesque de Dostoïevski. Alors nous sommes en 1849, il a 27 ans et il vient d'être arrêté.
Exactement, ce 23 avril à 5h du matin, vous savez, le régime du tsar Nicolas Ier agit avec vigueur contre les esprits forts et notamment les membres de ce cercle de Petrachevski. Ils sont envoyés, les pauvres gamins, j'allais dire, ce sont des jeunes agitateurs, vous voyez, pour beaucoup. Ils sont envoyés à la forteresse paraissent Pierre et Paul, enfermés dans des cellules sombres, humides. Les conditions d'emprisonnement sont très dures. En septembre, raconte Henri Troyat, Dostoïevski est à bout de résistance. La solitude totale où il végète le détruit lentement. Pour se distraire, il correspond avec son voisin de cellule en tapant de petits coups contre la cloison. Il étouffe, il ne peut plus se situer dans le temps, dans l'espace. Et pendant ce temps, l'enquête avance, elle piétine, disons-le. On interroge chacun des suspects, on arrive à réunir des preuves, notamment une carte qui recense les lieux où placer des barricades dans Saint-Pétersbourg. Oh là, ça sent pas bon, ça, bien entendu. On peut citer un certain nombre des critiques formulées par le cercle contre le régime, contre la religion orthodoxe, des appels à abolir la censure, ou même à critiquer l'institution de la famille. Fédor se trouve interrogé comme d'autres. Bien sûr, il essaie de se défendre. Oui, c'est vrai qu'il serait favorable à certaines réformes, mais bien sûr qu'il ne souscrit pas à tous les avis formulés dans le cercle de Petrachevski. Finalement, 21 prévenus, dont Fédor, vont être condamnés. Et là, c'est l'enchaînement implacable. Autour du 19 décembre 1849, le châtiment est décidé et le 22 au matin, on vient les chercher dans leur cellule. Les condamnés sont conduits dans la cour d'un régiment de Saint-Pétersbourg et là, on a installé une estrade. Il y a 3 poteaux dressés. La foule est déjà là pour assister à l'exécution. Les condamnés sont menés vers l'échafaud. Il faut imaginer la neige, bien entendu, on est au cœur de cet hiver pétersbourgeois, les pas sont lourds, il fait un froid terrible, le thermomètre est descendu à 20 degrés sous zéro. Certains condamnés tremblent, on ne sait pas si c'est de peur, de froid, sans doute un peu des deux. Fédor est perdu dans ses pensées. La sentence est lue et c'est la mort. On voit apparaître un pope qui prononce quelques mots sur l'au-delà, sur l'espérance des repentis, etc. Et puis les bourreaux se mettent en place. Le clairon lâche sa sinistre annonce, les tambours battent la mesure, les condamnés sentent leur cœur exploser dans leur poitrine, on les a déjà mis à genoux. 3 d'entre eux sont attachés au poteau d'exécution, ils seront les premiers. Dostoïevski ferme les paupières, raconte Troyat, il est le 6e dans l'ordre d'exécution. Le prochain tour sera le sien. Dans 5 minutes, il ne sera plus. Une angoisse affreuse le saisit. Il ne faut pas les perdre, ces 5 minutes. Il faut les employer au mieux, en extraire toute l'essence, toute la joie secrète avant de basculer dans la nuit. Les pensées se bousculent dans l'esprit du jeune Dostoïevski, tandis que les fusils arment. Le temps se suspend. Il n'y a plus qu'un mot à attendre, le mot « feu ». Ce mot, il ne viendra jamais. Parce qu'un cavalier est apparu qui apporte la grâce du tsar. Vous l'avez compris, bien sûr, tout ça n'était qu'une mise en scène, une sinistre farce. On commue les peines en des peines d'incarcération, de bagne. Et pour Fédor, c'est un soulagement immense. Il lui restait 5 minutes à vivre et maintenant ce sont, on ne sait pas, des mois, des années, une vie entière, une éternité. Il le perçoit, tout est bouleversé en lui. Il écrit à son frère: dès que je me retourne sur le passé, je songe à tout le temps gâché dans les égarements, les erreurs, l'oisiveté et l'incapacité de vivre. Comme j'en faisais peu de cas, que de fois j'ai péché contre mon cœur et mon esprit, et mon cœur se met à saigner d'abondance. La vie est un don, la vie est un bonheur. Frère, je te jure que je ne perdrai pas espoir et que je garderai pur mon esprit et mon cœur. Vous voyez cette pureté qui constamment revient, pureté, grâce, les grandes idées de Dostoïevski. Néanmoins, il faut revenir à la réalité. Le jour de Noël, il est enchaîné dans un traîneau et il part pour un terrible voyage vers la Sibérie. Il faut parcourir des lieues et des lieues, plusieurs milliers de kilomètres vers l'est, à travers cette steppe russe enneigée. Là, je parlais de moins 20 degrés, là ça descend parfois à 40, 45 degrés, vous imaginez, jusqu'à la prison de Tobolsk, où tout suinte, la misère, la souffrance, le désespoir. On peut dire que Fédor vient de faire son entrée dans l'enfer des hommes.
cet après-midi, Franck Ferrand vous fait revivre l'incroyable vie de l'auteur des frères Karamazov, Dostoïevski est au cœur de l'histoire. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook au cœur de l'histoire. À tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Il est considéré comme l'un des plus grands auteurs, écrivains, effectivement russes. L'incroyable vie de Dostoïevski, vous nous l'a raconté cet après-midi, Franck Ferrand. Alors après avoir subi un simulacre d'exécution, Dostoïevski est maintenant envoyé au bagne en Sibérie.
Et oui, il n'a pas 28 ans en tout cas. Il a cru à Tobolsk qu'il arrivait au bagne, mais ce n'était qu'une étape en fait. Et là, il y a des épouses et des proches de condamnés qui sont venus aussi loin pour apporter des denrées aux nouveaux arrivants. Il y a même une femme qui va lui donner une Bible, et cette Bible, il la prend, il la saisit, il va la garder avec lui, Fédor. Quelques jours plus tard, il est conduit vers la destination finale. On est encore à un demi-millier de kilomètres de là, vous imaginez, au bagne d'Omsk. Dans l'horreur, cette fois, il faut le dire. C'est Georges Reyer qui raconte. Deux forçats l'empoignent, lui rasent la moitié du crâne au sang. Il l'affuble d'une camisole noire et gris avec un grand as de carreau jaune dans le dos. Voilà l'écrivain à la mode, le dandy de Saint-Pétersbourg, transformé en un clown sinistre, transi, l'air idiot, manœuvrant au sifflet, claquant les sabots dans le rang, traînant ses chaînes, saignant sous les mannes de briques qu'il trimballe sur son dos par -45 degrés. Alors il y a les travaux forcés, mais il y a aussi l'exiguïté des dortoirs où règne une crasse terrible, les cafards, les râles, il y a les autres bagnards, la violence de ces êtres détruits dont certains n'ont même plus grand chose d'humain. On descend vraiment dans le fond du fin fond, si je puis dire. Vous connaissez la maxime de saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde, eh bien c'est vrai qu'au cœur de ces ténèbres va paraître la lumière. Toujours Georges Reyer, au fond même de la détresse et de l'horreur, écrit-il, cette âme en feu trouve ce qu'elle désespérait de jamais connaître, la foi. Dans les ténèbres, quelqu'un l'attend qu'il ne soupçonnait pas d'être là, Jésus. Jésus bafoué, Jésus supplicié et divin, que le forçat Dostoïevski découvre en chacun de ses compagnons de chaîne. Si vil qu'il soit, il n'en est pas un qui ne porte en lui une parcelle de divin. Le temps s'étire, chaque heure est une victoire dans un bagne comme celui-là où rôde la mort. Mais malgré le travail harassant, malgré l'épilepsie dont Dostoïevski est atteint, malgré l'horreur totale, il tient bon. Et ça va durer comme ça, et bien sûr c'est facile à dire en une phrase, mais ça va durer 4 ans, 4 années, jusqu'à ce que le 23 janvier 1854, Fédor soit libéré du bagne. Il a 32 ans à l'époque, il est complètement détruit, mais il est vivant. Pour lui, on ne peut pas dire encore que ce soit tout à fait la liberté. Il lui faut dans un premier temps rejoindre l'armée russe, un régiment situé près de la frontière mongole. Les conditions de vie sont très rudimentaires, la vie quotidienne est d'un ennui sans nom, les rapports entre soldats sont très durs, on est en 1854, au fin fond, aux confins de l'Empire russe. Mais après avoir vécu ce qu'il a vécu, Fédor est de nature à s'accrocher. Il se réfugie beaucoup dans l'imaginaire et spécialement dans la lecture. Il est autorisé maintenant à entretenir une correspondance. Alors on surveille ses lettres, bien sûr, mais quand même il peut écrire. Et dans cette région des confins, l'écrivain déchu est un peu, comment dirais-je, il détonne. Il est un peu à part du fait de cette culture et puis de la célébrité qui était la sienne. Il est quand même reçu par des notables locaux. Il est le roi de ces villages. Perdu, bien entendu, petit à petit, il revient à une existence plus normale, à défaut d'être tout à fait libre. Il va même s'éprendre d'une femme mariée à un ivrogne qui s'appelle Maria. Elle est un peu bizarre, elle a une drôle d'apparence. Cette femme, elle est terriblement malheureuse et au bout d'un long et sinistre drame amoureux, après la mort du mari, il va l'épouser comme on porterait secours à quelqu'un. C'est une très belle histoire en soi. À cette époque, Fédor se bat pour sa réhabilitation. Il s'essaie un peu maladroitement à des essais flatteurs pour le tsar Alexandre II. Il a compris la leçon, évidemment. Des amis parlent favorablement de lui dans les cercles pétersbourgeois. C'est une sorte de résurrection à laquelle on assiste petit à petit. Il va trouver des alliés, bien entendu. Et lui affirme à qui veut l'entendre qu'il est entièrement revenu de ses anciennes idées, bien entendu. Il est loin le temps du groupe de Petrachevski. Petit à petit, sa cause avance. En 1856, il retrouve son grade de lieutenant, ainsi que le droit de publier. Vous imaginez, c'est vraiment une résurrection. Il ne tarde pas à produire, bien sûr, de nouveaux récits. Alors, il y a toujours cette santé tellement délicate et ces crises d'épilepsie. Tout ça lui vaut un congé prolongé. Et puis, une nouvelle mise en retraite de l'armée. Et après de multiples péripéties sur lesquelles je ne vais pas m'attarder maintenant, il obtient, en 1859, le droit de rentrer, si je puis dire, de retourner à Saint-Pétersbourg. Thanase précise, il a dans ses bagages quelques feuillets d'un livre d'une toute autre envergure que les récits écrits en Sibérie. Souvenir de la maison des morts et le roman des 4 années passées en compagnie des forçats. À sa publication, ce livre, c'est un livre d'une force extraordinaire et pour lequel il a utilisé des notes qui ont été prises en secret pendant la détention, ce livre va marquer. La voie est ouverte au grand roman que l'écrivain publiera au fil des années, des romans nourris de toute l'expérience d'un homme qui a connu le pire et qui en est revenu. Un ressuscité d'entre les morts, un être, je vous l'ai dit, touché par la grâce. Bonjour Vladimir Fedorovski.
Bonjour Franck Ferrand.
Nous sommes à l'aube de la naissance, de l'éclosion d'un très grand talent et avec vous nous allons voir où le talent a porté Dostoïevski.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Influencé de nombreux écrivains et philosophes, la vie romanesque de Dostoïevski, nous sommes en plein cœur de l'histoire russe et vous recevez pour cela aujourd'hui Franck Ferrand, Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate.
Alors Vladimir, au moment où Dostoïevski est encore jeune, même s'il a l'air d'un vieillard et pour cause, il sort de 4 années de bagne, au moment où il revient à Saint-Pétersbourg, on peut dire que Dostoïevski est complètement encore traumatisé.
Mais il sera traumatisé toute sa vie.
Mais c'est ça.
Ces 5 minutes dont on a parlé, dont vous avez parlé si bien, il
cette
faut
exécution,
dire exécution, un simulacre de l'exécution, ont changé sa vie. D'une part, la lumière de Christ est entrée dans son cœur à ce moment-là. Il faut imaginer ce qui s'est passé. On a vu, il y a un de ses coéquipiers, il est devenu dingue en ces 5 minutes. Lui, il était sauvé par la lumière qui est entrée dans son cœur. Mais son ambition est intacte. Il croit en lui-même. Vous avez dit, un des plus grands écrivains russes, Dieu sait que je suis souvent d'accord avec vous.
Mais même on peut dire mondiaux.
Tolstoï est russe, Bounine est russe, Dostoïevski c'est l'universel.
C'est ça.
Et cette universalité nous permet aujourd'hui de plonger avec lui, dans les, bien sûr, maisons de mort. Mais ces goulags d'aujourd'hui, vous avez dit démons. J'utilise un autre titre pour ce livre, les possédés. Mais vous voulez comprendre le terrorisme d'aujourd'hui, leur logique, Daesh, lisez les possédés. Tout est là, Freud, prémonitoire par rapport
oui, c'est
à Freud.
Hyper moderne en fait.
Hyper moderne,
c'est-à-dire qu'on
bien
est sûr. On est au milieu du 19e siècle et on est dans l'écriture qui pourrait être celle d'un écrivain du 20e
c'est absolument
siècle.
Absolument. Le roman psychologique. C'est vrai que l'influence de Balzac, ses discussions avec le grand Tolstoï, évidemment, sont là.
Quelles sont ses influences en fait? On dit qu'il a été influencé par Pouchkine pour ce qui est du style.
Pouchkine, pour nous, vous savez, c'est le plus grand homme des
lettres.
C'est l'inventeur de la littérature. littérature russe. Il y a un célèbre discours, il faut relire ça pour comprendre, pour nous comprendre, pour comprendre la Russie d'aujourd'hui. Évidemment, il faut revenir à Pouchkine. Mais vous voulez comprendre Poutine? Je vais vous dire, relisez Dostoïevski. Trois mots pour Dostoïevski, parce que, bien sûr, l'orthodoxie, mais le nationalisme et l'esprit du peuple, c'est cet esprit, il faut dire, slavophile, et évidemment, vous les retrouvez partout. Vous imaginez entre Freud, Poutine, ou encore Daesh, vous avez le choix et tout se trouve chez Dostoïevski.
Le tourment, la souffrance comme des moyens d'accès à une grâce, en fait. Il y a quelque chose de profondément religieux dans,
cette... la souffrance. Ah, je suis très touché que vous avez employé un mot, la souffrance. La souffrance liée avec son esprit chrétien, d'une part, qu'il assume. Parce que vous savez, j'ai oublié de vous dire, vous voulez comprendre l'Europe? Il a reproché à l'Europe, à l'époque, de trahir ses valeurs chrétiennes. À l'époque, vous imaginez, la société, il a été critique de ça. Pour revenir, la souffrance. Il cherche la souffrance. Vous savez, je suis très porté, vous connaissez, sur Saint-Pétersbourg, et j'adore quand même les splendeurs. C'est une ville extraordinaire, avec les façades, avec les palais.
Oui, c'est un grand théâtre baroque sublime.
Un grand théâtre baroque, des grands drames, exactement. Ah, qu'est-ce que vous avez utilisé les mots qui me touchent, parce que c'est la révolution, c'est le théâtre, mais quel théâtre extraordinaire. Mais Dostoïevski, c'est une autre Saint-Pétersbourg. C'est vraiment le Saint-Pétersbourg. Oui. Bien sûr, c'est les russigneux, c'est la souffrance. Et c'est la recherche de je l'ai constitué il y a quelques jours. Juste, j'ai voyagé avec Saint-Pétersbourg, j'étais étonné. Il fit les palais. Tout est vrai dans ce qu'il raconte dans ses romans, à tel point qu'il y a même le même nombre des marches quand Raskolnikov dans le Kripy,
oui,
le châtiment.
Exactement,
le même nombre. J'ai fait ça récemment à Saint-Pétersbourg, exactement le même ombre, souffrance, vous avez utilisé. Il y a une autre chose qui est aussi prémonitoire par ce qu'on vit. Il entre dans les allées sombres de la vie humaine et ce qu'il cherche, c'est peut-être la maladie. On n'a pas suffisamment évoqué le lien carrément entre cette maladie qui le rend tellement sensible, l'épilepsie, mais il cherche l'amour dans la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui cherchent les hystériques, vous connaissez le président, etc. Ils ont le même profil, il y a les profils des choses. Lui, il cherche l'amour dans les souffrances. Et attendez, juste une seconde, je vous dis, il a une phrase emblématique. Tout le monde prend cette phrase. Il dit, quel bonheur, quelle souffrance d'habiter la ville la plus préméditée du monde, Saint-Pétersbourg, et il cherche ça, il cherche l'amour, il cherche cette ville dans la souffrance. C'est ça aussi.
Alors, il a connu Saint-Pétersbourg d'une toute autre façon, lorsqu'il était ce jeune dandy qui croyait pouvoir prendre possession des salons de la ville. Il conservera quand même cette forme d'ambition. Il lui faut de l'argent, ça c'est le problème, quand il se remet à l'écriture et à la littérature. Et on va le voir bientôt fuir à travers toute l'Europe, en fait, et jouer, bien entendu. C'est un joueur. Hein.
Joueur, mais il fit comme Balzac, il fuyait ses créditeurs en
Exactement,
Russie.
Exactement, il crée les créanciers.
Créanciers pour jouer. Le jeu aussi, la passion, c'est un homme des passions. Et le mot les posséder, c'est les passions qui nous possèdent. Relisez encore une fois à ce moment de Noël, le joueur, la passion de jeu, Baden-Baden, tout ça c'est extraordinaire.
Un roman d'une force psychologique
extraordinaire.
Hors du commun.
Vous savez, j'ai lu ça à 13 ans et je relis ça vraiment chaque année.
Et différemment.
Différemment. On trouve un nouveau Dostoïevski chaque fois. Dostoïevski par Franck Ferrand, c'est différent des autres.
Alors, c'est à l'auteur de La Volupté des Neiges que j'ai envie de demander ce qu'il en est de sa vie amoureuse. Il a épousé donc cette femme dans des conditions un peu étranges après sa libération.
Bien sûr, vous avez dit l'ivrogne, mais c'est tout d'abord les Russes, ils sont souvent les ivrognes, mais c'était quand même quelqu'un qui était condamné comme lui. Alors il le fait comme un geste chrétien, et c'est une vraie histoire d'amour. Il adopte l'enfant avec elle, mais c'est malheureusement les tragédies, c'est la succession de tragédies. Il faut dire la vie de Dostoïevski est comme ça. Quand il revient à Saint-Pétersbourg, il est en train de quand même de réussir. Il lance son grand journal avec l'aide de son frère et finalement il s'installe avec cette femme-là. Mais la femme disparaît, elle est décédée. Puis son frère est décédé. Les tragédies rattrapent et il y a une femme, une sorte d'égérie très bizarre qui entre dans sa vie. Elle s'appelait Paulinka. Aussi prémonitoire, les féministes, émancipées avant l'heure. Tout ça et les contradictions. Elle cherche le contact intellectuel, l'amour intellectualisé. Mais Dostoïevski, c'est foudroyant. Il n'est pas comme Tolstoï, qui était au fait une sorte de déesca mystique, mais il était très porté sur la chose. Et il faut dire, oui, bien sûr, ça c'est les choses, sur la chose. Et il y a les contradictions, la souffrance, l'évolution de l'amour dans la souffrance. Et il reflète tout ça dans ses romans. Quand vous lisez ses romans, en fait, c'est une sorte d'autobiographie permanente parce que les profils de femmes qu'il a connues, évidemment, et là, il faut dire que vers la fin de sa vie, parce que c'est une liaison...
Il est assez
avec...
compulsif quand même, il a fort besoin de sexe. Hein.
Complètement. Mais j'ai parlé, justement, quand j'écrivais, c'est comme vous dites l'entrée pour les dictionnaires amoureux de Saint-Pétersbourg, j'ai consulté les médecins. Les médecins, et ils m'ont parlé de l'influence, c'est très intéressant, l'influence de l'épilepsie sur le sexe, parce que le sexe, c'est un des facteurs, tout à fait, et évidemment, il est très simple. Mais c'est pas quelqu'un qui est différent vraiment de Tolstoï, parce que Tolstoï, c'était un dingo dans ce domaine. Dostoïevski, il cherche ça, mais il y a toujours ce côté intérieur. C'est toujours les grandes histoires d'amour. C'est pas seulement le sexe et les sensualités.
Apollinaria,
c'est Apollinaria, exactement. Apollinaria, c'est Apollinaria qui a marqué, qui sera une grande égérie. Je suis une grande inspiratrice pour Dostoïevski. Mais quand vous prenez les personnages de Dostoïevski, vous allez retrouver cette Apollinaria à chaque page de ces grands romans.
Alors justement,
qui portent un réconfort pour Noël. On a dit livre pour Noël, Dostoïevski pour Noël, la vodka, un peu de saumon et Dostoïevski.
Et puis la volupté des neiges pour se reposer un peu quand même.
Mais ça c'est la lumière,
ben, ça, bien
pour
entendu.
Soigner la tristesse de notre époque.
Alors on va y venir à ces fameux grands romans dostoïevskiens dans un instant. On va les prendre un par un si vous le voulez bien Vladimir.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il est l'auteur des Frères Karamazov, du Joueur, de Crime et Châtiment ou encore Les Démons. Cet homme, vous l'avez reconnu, c'est Dostoïevski. Et pour nous en parler cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate qui, lui, est l'auteur de La Volupté des Neiges, paru chez Albin Michel.
En 1866, Vladimir Fedorovski paraît Crime et Châtiment, peut-être l'œuvre la plus connue, la plus célèbre de Dostoïevski. Une œuvre aussi tourmentée que son auteur, d'une certaine manière. Crime et Châtiment.
Policière. Quoi ? Un jeune homme décide de tuer une usurière. Regardez ça autrement. Regardez ça comme une entrée dans le tourment de la vie. Regardez le style, regardez comment Dostoïevski fait marcher cette machine infernale qui est en nous. Qui nous sommes ? Est-ce que nous sommes la lumière ? Est-ce que sont les ténèbres en réalité ? Raskolnikov, il s'appelait le héros.
Raskolnikov.
Quel nom ! Combien de révolutionnaires, vous savez, ont pris après ce pseudonyme Raskolnikov, voyager dans les allées sombres de la vie humaine avec Raskolnikov, voyager à travers Saint-Pétersbourg, vraiment sombre,
Avec des miroitements de l'esprit qui ne peuvent que faire penser à Proust d'une certaine manière.
Prémonitoire, hein, oui. Évidemment. Ça, c'est le style.
Le
évidemment,
style, oui.
Prémonitoire, mais à la fois, on a dit universel, mais quand même profondément russe.
Ah,
il
oui,
faut
oui,
dire. Proust est mesuré, je vais vous dire. Proust est plus le style. Dostoïevski est démesuré, mais avec le style tout à fait prémonitoire. Vous savez, ce qui
il lit beaucoup, il faut dire. Hein,
évidemment, évidemment. Mais vous savez, il lit beaucoup. Et ce qui est très intéressant, mais ça c'est propre aux Russes, il lit beaucoup la poésie.
Oui.
Il lit.
Byron.
Évidemment, il lit la poésie. Et il faut dire que ces personnages sont comme ça. Mais ces personnages, je vais vous dire, tous les deux, Tolstoï et Dostoïevski, ont été des chamans. Je suis arrivé à la conclusion, sont des chamans. Quand il raconte...
Avec quelque chose d'une essence quasiment surnaturelle.
Absolument. C'est exactement ça. C'est extraordinaire. L'Ugérière nous raconte elle-même. Vous savez, les aléas de la vie de Raskolnikov, c'est par lui-même. Les femmes de Dostoïevski sont par lui-même. Et c'est vrai que c'est évidemment... le roman de 21e siècle.
Vous disiez que ce Crime et Châtiment est un roman intensément russe, pas autant que L'Idiot. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est le cœur même de l'âme russe. 1868, L'Idiot. Hein.
Je vais vous dire, ça c'est vrai. L'Idiot est en partie Les Possédés. Je vais vous dire, c'est prémonitoire.
Le CD, c'est celui d'après, 71-72.
Bien sûr, mais il faut les considérer ensemble. Il y a une nation, un mot que vous avez utilisé. C'est le mot souffrance, que le Christ a souffert pour nous. Et il faut dire que les héros de cela, c'est une prémonition de la souffrance, cette fois-ci de la Russie. Je vais vous donner pourquoi ça me frappe, jusqu'à quel point... Dostoïevski était prémonitoire par rapport à une sorte de suicide que la Russie va commettre au 20e siècle avec la révolution 17. Vous comprenez, les souffrances russes, c'est les souffrances complètement inimaginables. Je vais vous citer trois chiffres. 25 millions tués par Lénine, Trotsky et Staline. 26 millions tués par les nazis et l'inflation post-communiste était 1800%. La souffrance à l'infini. Mais ce qui me frappe, que Dostoïevski, il était prémonitoire par rapport à ce qui va se passer. Vous savez, ces romans, c'est le destin de la Russie elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a les personnages qui... En fait, il a consciemment mis les personnages dans la tradition chrétienne. Les Christs. Les Christs sont avec nous. Et ça, c'est...
C'est quand même étonnant lorsqu'on voit d'où part Dostoïevski, il est proche de Gogol au départ, hein, les pauvres gens, tout ça, c'est ce cercle qui va l'amener à se révolter d'une certaine manière contre un certain nombre d'abus du régime du tsar. Et il est à la fin de sa vie, dans les années 1880, il est devenu lui-même très tsariste, très, très conservateur d'une certaine manière.
Bien sûr, bien sûr, ça vous avez raison. Parce que finalement, et ça c'est une grande différence entre lui et Tolstoï, puisque Tolstoï il était profondément anti-tsariste et en réalité...
Des différences, hein, parce qu'ils sont...
il y a des différences, mais une grande différence politique, je dirais.
Oui.
Mais tandis que Dostoïevski, il est devenu profondément slavophile, il reproche la future société consommation
très chrétien,
de l'Europe.
Très slavophile. Chrétien.
Il est très critique envers l'Europe, l'Europe...
Trop matériel.
Qui trahit ses valeurs, qui trahit la foi, etc. Et il est consciemment critique. Et évidemment, il faut dire que cet esprit a été porté au pinacle par un grand admirateur de Dostoïevski, qui était un tsar qui est mort un peu avant l'heure, qui s'appelait Alexandre III. Et évidemment, Dostoïevski, à l'époque, il devient un personnage... quasi, en tout cas, un personnage emblématique et quasi officiel de cette tendance qui existe jusqu'à l'heure actuelle. C'est une tendance des écrivains slavophiles qui disent que la Russie porte aussi la souffrance pour les autres. Il défend les valeurs chrétiennes, il défend, dit ses continuateurs d'aujourd'hui.
Une dimension messianique.
Messianique, hein, en quelque sorte, moins messianique sur ce plan-là. Vous savez, il y a une dimension politique très, très terre-à-terre. Déjà, il était prémonitoire, par exemple, il a mentionné dans une de ses lettres que la Russie sera un barrage contre l'islamisation de l'Europe, etc. Vous imaginez, c'est absolument inimaginable.
Là, pour le coup, c'est assez visionnaire.
C'est assez étonnant que l'écrivain de ce genre-là. Et aujourd'hui, les gens qui se renouent avec ça, ils vont vers l'actualité, vers ce que fait un peu Poutine aujourd'hui. Mais il faut dire que vous avez mentionné une chose sur laquelle je voudrais un tout petit peu polémiquer avec vous. Vous savez, je vais vous dire, en Gogol, il y avait cet aspect pauvre gens. Mais Gogol, c'est un écrivain profondément chrétien et profondément mystique. Et sur ce plan-là, simplement, il y a cette filiation de Gogol qui est allée.
Néanmoins dans la même veine.
Dans la même veine, parce que vous
le voulez. Le grand roman en 1880, Les Frères Karamazov.
Mais ça, c'est profondément russe. les excès russes.
Racontez en deux mots, faut dire, les frères Karamazov.
Je vais vous dire, c'est une histoire de la famille et déchirement de la famille russe. Avec, encore une fois, ce qu'il raconte, ce qui est très intéressant là-dedans, que même les personnages qui devaient être haïs, ils ont leur logique, leur conviction, et entre chacun porte en soi à la fois la lumière et l'enfer. Les frères Karamazov, par rapport à cette universalité, je dirais, de Dostoïevski, des choses précédente, évidemment, c'est un roman profondément russe. Le mot souffrance aussi rentre. Les personnages féminins, il faut dire.
Bien sûr.
Parce que, vous comprenez, c'est très intéressant. Cette femme, Polinka, évidemment, et Géry, qui le faisait tant souffrir, un peu hystérique, ça me rappelle les gens qui cherchent les hystériques. Vous savez,
les amateurs d'hystériques.
Les amateurs des hystériques, même vous savez, les dirigeants politiques, ils sont portés sur ça, n'oubliez pas, etc. Et ça, c'est les choses, je parle souvent. Et ça, c'est Dostoïevski, et évidemment, dans ses romans, il reproduit ce qu'il a connu avec, encore une fois très intéressant, avec une grande satisfaction qu'il a eue avec ses histoires d'amour et toujours l'amour dans la souffrance.
Oui, et cette idée de souffrance qui est en cœur.
Le mot que vous avez utilisé au début, ça m'a touché beaucoup. Oui.
C'est au cœur de toute cette œuvre, de toute cette pensée de Dostoïevski. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Dostoïevski incarne l'âme russe, selon vous ?
Il incarne l'âme russe dans certaines de ses dimensions. Frère Karamazov, pour moi, c'est vraiment le caractère russe, avec les déchirements, avec les excès, etc. Mais d'autres choses.
Et est-ce qu'il faut le lire en russe ? Est-ce que c'est
ça ? C'est pas nécessaire. C'est pas du tout nécessaire pour moi. Je vais vous dire. Heureusement pour nous. Les grandes traductions, les grandes biographies de Dostoïevski, vous avez, ils sont à la portée de tous, et ça c'est presque réconfortant. Pushkin est intraduisible. Pour moi, c'est un problème.
Il y a une musique.
La musique de ça, surtout la poésie, et les gens sont. Mais les grandes choses de Dostoïevski est très intéressant. Je voudrais quand même souligner cette importance dépossédé de démons, comme vous dites. Ça, c'est vraiment l'actualité. C'est pour comprendre ce qu'on va vivre, parce qu'on est entré dans la guerre mondiale, la logique de ces gens-là, il faut revenir aux terroristes russes, et la meilleure vraiment...
Les démons étude, de Dostoïevski.
Je les appelle possédés.
Vous dites les possédés. D'ailleurs, il y a des traductions qui disent les possédés. Mmh. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. J'espère que ça vous a donné envie de profiter des vacances de Noël pour relire Dostoïevski, ou le lire d'ailleurs. On peut toujours découvrir des merveilles à tout âge. Et je vous rappelle que le dernier ouvrage de Vladimir, c'est La Volupté des Neiges, aux éditions Albin Michel. On attend avec impatience chez Plon le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donnera les origines du titre Tsar de toutes les Russies.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et au aujourd'hui pour vous, Franck, une question qui est signée Karl, qui l'a postée sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Quelle est l'origine du titre tsar de toutes les Russies et quelles sont les autres Russies?
Alors le tsar, c'est César, hein, d'abord, tout simplement, Kaiser en latin, Kaiser en allemand, tsar en russe. Le premier à s'arroger ce titre de tsar, c'est un grand prince de Moscou, c'est Ivan III, on est au 15e siècle. Et vous savez que ces grands princes de Moscou, petit à petit, vont voir s'étendre leur domaine, bien entendu. On va passer à un empire. Et d'ailleurs, la Russie du 16e, du 17e siècle se conçoit vraiment comme l'héritière de l'ancien empire byzantin. Et ce titre de tsar de toutes les Russies, eh bien, c'est le titre impérial qu'accepte Ivan IV, Ivan le Terrible, donc, en 1547. À partir de là, tous les tsars seront tsars de toutes les Russies, jusqu'à Pierre le Grand, puisqu'en 1721, Pierre décide de changer le titre et qu'à partir de Pierre le Grand, on ne parle plus de tsar. Enfin, on continue à dire le tsar, hein, d'ailleurs. Mais officiellement, les descendants de Pierre seront les empereurs de Russie. Et oui, on a tout occidentalisé sous ce règne-là. Le tsar Nicolas II, le dernier tsar, hein, jusqu'en 1917, était officiellement empereur de Russie, même si l'on continuait à dire qu'il était tsar de toutes les Russies.